face auto. Vous écoutez Radio J, il est 15h.
Bonjour à tous et à la une de l'actualité ce matin, Itamar Ben-Gvir se rend sur le Mont du Temple à l'occasion de Tisha B'Av, le ministre de la Sécurité nationale. Visite donc le site le jour du jeune juif commémorant la destruction des deux temples hier soir. Ce sont des milliers de personnes qui se sont retrouvées devant le Kotel pour commémorer la destruction des temples juifs. Le Hamas publie une nouvelle vidéo de propagande, cette fois-ci celle d'Eviatar David. La famille du jeune homme en a autorisé 40 secondes de diffusion. Eviatar y est squelettique, il ne mange pas pendant plusieurs jours d'affilée et semble creuser un trou dans un tunnel. Il dit probablement sous la dictée du Hamas qu'il craint que ce soit sa propre tombe, tant il sent qu'il est en train de se diriger vers la mort. Des rassemblements ont lieu simultanément au carrefour, dans les villes et villages de tout le pays, et hier soir ce sont des milliers de personnes qui se sont réunies place des otages à Tel Aviv. La sœur d'Eviatar, Yela David, a pris la parole à la tribune.
Le Hamas utilise Eviatar dans l'une des campagnes les plus horribles et les plus calculées qui soient. Il l'affame délibérément, utilise systématiquement ses souffrances atroces comme un outil pervers pour leur propagande dépravée. C'est assez, assez, on en a assez. Mon cher frère Eviatar, maman, papa et moi t'aimons tellement. Et nous pleurons parce que tu nous manques tant. Maman est brisée, elle ne travaille plus. Papa entend ta voix dans la nuit et ne peut pas dormir. Mais Ellie et moi essayons de prendre soin d'eux autant que possible.
La sœur d'Eviatar David, hier soir, place des otages. Eviatar est aux mains du Hamas depuis maintenant 667 jours. Et selon les services israéliens, le Hamas et ses hommes ont bien de quoi se nourrir et affament volontairement les otages. Hier soir sur X, le ministre français des Affaires étrangères a condamné les vidéos de propagande du Hamas. Des images ignobles et insupportables, a écrit Jean-Noël Barrot. Le premier ministre Netanyahou et le président de l'État d'Israël se sont entretenus avec la famille d'Eviatar David. Le cœur de la nation brûle d'inquiétude et de douleur, écrit le bureau du président Herzog dans son communiqué. C'est dans ce contexte que l'administration Trump change de stratégie dans les négociations pour libérer les otages. Selon l'envoyé spécial américain pour le Proche-Orient, les discussions doivent être centrées sur le tout ou rien, c'est-à-dire le retour de tous les otages en une seule fois, et donc plus par phase, avec la fin totale de la guerre dans la bande de Gaza. C'est ce qu'a dit Steve Witkoff aux familles d'otages à Tel Aviv. Il a affirmé que c'est le président Trump lui-même qui a souhaité ces rencontres pour entendre les doléances des familles. Sur le terrain, le commandant adjoint du bataillon Cheikh Radouane du Hamas éliminé par Tsahal. L'opération a eu lieu la semaine dernière et ces deux derniers jours, Tsahal a frappé plus de 130 cibles terroristes dans toute la bande de Gaza. Actuellement, quatre divisions terrestres de l'armée israélienne y sont déployées. Au chapitre humanitaire, des avions en provenance de Jordanie, des Émirats, d'Égypte, d'Allemagne et de France ont largué 90 colis d'aide humanitaire. Ces opérations ont lieu dans le nord et le sud de la bande de Gaza. Elles ont eu lieu au cours de ces dernières heures. Les colis contiennent de la nourriture. 220 camions chargés de vivres passent aussi chaque jour la frontière, selon l'Allemagne. Même si Berlin estime que cela reste insuffisant pour atténuer une situation d'urgence, le gouvernement allemand dénonce aussi le Hamas qui fait barrage à la livraison de ces aides à la population gazaoui. Un juif new-yorkais de 70 ans fait partie des quatre citoyens américains otages de l'Iran. C'est ce que rapporte le New York Times. Selon les organisations de défense des droits de l'homme, il est propriétaire d'une bijouterie et est interrogé à propos d'un voyage en Israël. Ces quatre Américains se sont tous rendus en Iran pour visiter des proches. Les familles ont demandé à leurs proches de garder l'anonymat, craignant une aggravation de la situation de ces otages. La guerre en Ukraine, Kiev a attaqué hier des raffineries et des entreprises du complexe militaro-industriel russe, ainsi que des sites de stockage et de lancement de drones iraniens, ceux de type Shahed, utilisés par la Russie pour attaquer l'Ukraine. Pour ce qui concerne l'Europe, l'ancien ambassadeur de France en Russie évoque la stratégie de Moscou au micro de LCI. Pierre Lévy.
La Russie n'attaquera pas forcément au sens militaire du terme. Elle pourra tester l'alliance peut-être avec des opérations sous faux drapeau. Mais en tous les cas, il y a beaucoup de façons sur un mode hybride d'intervenir et d'affaiblir les pays européens, de fausser des élections nationales, d'utiliser certains États membres, je pense en particulier la Hongrie ou la Slovaquie, à son bénéfice. Donc clairement, on est dans une confrontation de longue haleine.
Pierre Lévy, ancien ambassadeur de France en Russie.
Émission spéciale en ce jour de 9 av, ce jour de jeûne, ce jour de commémoration, ce jour funeste, ce jour de deuil. Le jour du 9 av est un jour très particulier et je me propose qu'on puisse passer quelques instants ensemble avec quelques réflexions sur l'histoire, sur la halakha, sur les choses à faire et puis de penser sur cette journée très particulière du calendrier, le 9 av. Alors, d'après la Mishnah, d'après donc le texte de la Mishnah, on donne 5 raisons à cette journée funeste du 9 av. 5 raisons fondamentales. Malheureusement, de très nombreuses raisons se sont greffées à ces 5 raisons au fur et à mesure des années, des siècles, des générations. Parce qu'on nous dit que on fait venir des moments positifs, des moments bons, à des dates qui sont bonnes, et des choses qui sont négatives, à des dates qui, on va dire, ont des ondes négatives. Et le 9 av est un jour à ondes négatives, je dirais, avec peut-être à l'origine, le premier élément qui est mentionné dans la Mishnah, c'est la faute des explorateurs. En effet, les enfants d'Israël sont dans le désert, ils sont sortis d'Égypte depuis un peu plus d'un an. Ce qui s'est passé depuis la sortie d'Égypte, c'est que ils ont reçu la Torah. Après avoir reçu la Torah, ils devaient recevoir les tables de la loi, mais il y a eu un quiproquo sur la date. Alors, ils ont fait un veau d'or entre-temps, ce qui a entraîné le bris des tables de la loi, et qui va entraîner une demande de pardon pendant une première série de 40 jours, puis une deuxième série de 40 jours, qui va aboutir au jour de Kippour. Et le jour de Kippour, c'est la démonstration du pardon de la faute du veau d'or avec les deuxièmes tables de la loi. Mais pour témoigner de ce pardon, il va voir, d'après une certaine version, la construction du Mishkan, du sanctuaire, Mishkan Haïdout, le sanctuaire du témoignage, que la présence de Dieu va être là. Et donc il va voir la construction de ce Mishkan, sanctuaire, qui sera prêt assez tôt, mais on va attendre pour l'inaugurer le mois de Nissan, qui est le mois de la naissance de Yitzhak. Donc pour un certain nombre de raisons, on va attendre le mois de Nissan, et ce n'est qu'au premier Nissan qui va avoir l'inauguration, donc du Mishkan, un peu plus d'un an après la sortie d'Égypte. Et puis après, les enfants d'Israël vont rester pendant encore un petit peu au pied du Sinaï, parce que pour l'instant, ils n'ont pas bougé du pied du Sinaï depuis qu'ils ont reçu la Torah. Ils ont fait le veau d'or, la construction du Mishkan, tout ça se fait au pied du Sinaï. Et à peu près un mois et demi après l'inauguration du Mishkan, ils se mettent en route pour partir vers la terre d'Israël. Et là, avant de rentrer en Israël, les enfants d'Israël demandent à Moshe d'envoyer des explorateurs pour savoir peut-être au niveau tactique, s'assurer que la terre est vraiment bonne, alors que Dieu avait dit que je vous amène vers une terre qui est bonne. Et les enfants d'Israël vont demander avoir des preuves. Ils vont envoyer 12 explorateurs, un par tribu. C'est là déjà un premier problème, parce que ils auraient pu envoyer que deux, Alpish Naïm Yadim Yakum Davar, un témoignage de deux est considéré comme un témoignage qui est valable, et il aurait fallu considérer que tout le peuple ne forme qu'un seul peuple, et ils auraient envoyé deux émissaires qui auraient pu, d'ailleurs comme Josué le fera 40 ans plus tard, à la veille de l'entrée des enfants d'Israël en terre de Canaan. Mais ils envoient 12 pour que chacun ait son représentant, et malheureusement, sur les 12, 10 vont revenir avec une perception très négative de ce qu'il y avait en terre de Canaan. Une des explications est que Dieu ne voulait pas qu'on remarque leur présence, alors il a provoqué un certain nombre d'enterrements dans la terre. Quand il y a un enterrement, les gens s'occupent d'enterrement, et puis quand il y a des personnes qui sont présentes pour un enterrement, c'est pas forcément des gens qu'on connaît, puisqu'il peut y avoir de la famille qui vient de loin ou des c'était une situation pour masquer la présence des explorateurs en terre de Canaan. Dieu nous fait du bien, et comment on le perçoit? Eh bien, les explorateurs ont dit « Eretz ochelet yoshvea », c'est une terre qui mange ses habitants. On n'a vu que des enterrements. Ouais, vous avez vu que des enterrements. Et oui, c'est une terre où on meurt facilement, et entre autres, ils vont dire « il y a des géants ». Enfin, grosso modo, on ne pourra pas rentrer sur la terre de Canaan. Et là, ils vont donc 10-2. Caleb ben Yefouné et Yoshua ben Noun, deux explorateurs, eux vont rester fidèles à un compte-rendu, on va dire, très positif, mais ils ne seront pas écoutés par les autres, ils vont être mis en minorité, bien évidemment, par les 10 autres, et les 10 vont entraîner tout le peuple dans un pleur, un soir, c'était le soir d'une fave, et Dieu va dire, vous avez pleuré pour rien, et bien, vous avez pleuré pour quelque chose, sachez que, puisque vous ne voulez pas de cette terre, vous n'avez pas confiance, et ben vous ne rentrerez pas sur cette terre. Quand des fois on refuse le bien, alors que Dieu nous fait plein de bien et que on le refuse, alors Dieu dit bon ben tu veux pas, ben il y a pas de problème, tu n'auras pas. Et donc toute la génération, depuis 20 ans jusqu'à 60 ans, ils sont tous morts dans le désert pendant les 40 ans d'errance, dans le désert, alors c'était 40 ans, pas vraiment 40 ans, puisqu'ils étaient 19 ans à un seul endroit. Et les autres 19 ans, ils étaient sur une errance de quelques étapes, donc faut pas comprendre qu'ils étaient tout le temps en errance. Mais et en tout cas, il va avoir cette problématique que, ce jour-là va être décrété, eh bien, pour cette génération de ne pas rentrer en terre d'Israël. Ils allaient tous mourir. Et en fait, ce qui se passait, c'est qu'à partir de cette date-là, tous les 9 Av, chaque année, eh bien, tout le monde creusait sa propre tombe. Et ils dormaient dans leur tombe. Et au matin, eh bien, on disait que les vivants se lèvent. Et là, eh bien, tout le monde se levait, sauf 15 000 personnes qui mouraient chaque année. Il y avait 15 000 qui mouraient, et c'est comme ça que en 40 ans il y a eu 600 000. Bon, je rentre pas dans les détails de calcul, mais en tout cas, il y avait le 9 Av était donc un jour de deuil, parce que condamnation de mourir dans le désert, mais aussi parce que c'était concrètement le jour où il y avait 15 000 morts. Et il mourrait pas dans le reste de l'année, il mourrait juste à cette date-là. Et donc on peut comprendre que ça soit une date de deuil, bien avant donc la destruction du temple, avec ce qui s'est passé dans le désert avec les explorateurs. Mais au-delà de ça, la base de cette faute des explorateurs, ça va être en fait l'ouverture vers toutes les galouillottes, tous les exils et cette errance dans le désert. Comme un symbole, toutes les errances des enfants d'Israël avant, alors après la destruction du premier temple, après la destruction du deuxième temple et l'exil, les enfants d'Israël qui partent en diaspora et qui reviendront, il va avoir une corrélation très intéressante entre cette date du 9 Av, le deuil, les morts qu'il y avait dans le désert, et ça c'est la première raison, donc qui est liée à la base au mauvais descriptif, au Lachonara, puisque ça va être donc le terme à retenir, le Lachonara, les paroles de médisance que les enfants d'Israël ont fait contre Moshe, contre Hachem, contre Moshe, le manque de confiance en Dieu, ça a entraîné donc cette pleure de gratuite, et c'est cher, on ne doit pas pleurer pour rien. Il y a une notion de les pleurs, les larmes sont composées d'eau et de sel. L'eau, c'est la miséricorde, la bonté. Le sel, c'est la rigueur. Et quelque part, quand on pleure, eh bien, ces larmes vont atténuer la rigueur que l'on rencontre, que ce soit un deuil, que ce soit une douleur, une souffrance. Et donc les larmes sont là pour adoucir le sel de la rigueur. Mais si il n'y avait pas de rigueur et que ces larmes sont pour rien, alors la chose est grave. Et c'est pour ça que Dieu va dire, ben, vous avez pleuré pour rien, vous avez pleuré pour quelque chose. Et c'est comme ça que la date d'une fave est devenue une date très forte. Alors, le plus connu, c'est donc la destruction du premier temple en l'an 3338 du calendrier hébraïque. Ça fait moins 422. Alors c'est vrai que ça fait un décalage avec la date qu'on peut retrouver dans les textes, mais dans les livres. Mais c'est pas évident. Alors il y a une discussion sur un certain nombre d'années cette époque. Ce que je voudrais avoir comme repère, simplement, d'après la tradition, quand vous additionnez les années depuis Adam le premier homme. Il a vécu 130 ans, 130 ans il a eu Seth, et puis Seth allant 105 ans il va avoir son fils Enoch, etc. Et quand on va additionner donc les années à quel âge chaque personnage va avoir son fils, et on va additionner les uns avec les autres, on va arriver donc sur les 20 générations qui vont d'Adam jusqu'à Abraham. D'après ce compte est né en 1948. Il est né en 1948 donc du calendrier hébraïque. Il a à 100 ans son fils Yitzhak, comme c'est marqué donc dans le texte de la Genèse. Donc Yitzhak né en 2048. Je vous passe les détails de technique, mais Dieu annonce la nuance entre les morceaux à Abraham, sache que ta descendance sera pendant 400 ans en exil. Alors on sait que les enfants d'Israël ne sont pas restés pendant 400 ans en Égypte, et qu'on doit compter les 400 ans à partir de sa descendance, c'est-à-dire de la naissance de Yitzhak. Ça veut dire depuis la naissance de Yitzhak jusqu'à la sortie d'Égypte, il y a 400 ans. Si Yitzhak est né en 2048, donc la sortie d'Égypte, d'après donc notre calcul d'après le calendrier, c'était en 2448. Donc 2448 sortie d'Égypte, le don de la Torah. Intéressant, 2448. Si on continue un peu le calcul, on se rend compte que souvent dans l'histoire juive, les périodes sont à peu près de 500 années. Ou un peu moins. En tout cas, entre la sortie d'Égypte et la construction du premier Beth Amigdash par le roi Salomon, du premier temple de Jérusalem, il y a 480 années, comme c'est marqué dans le livre des rois. C'est marqué en tout lettres. Donc, 480 années depuis la sortie d'Égypte jusqu'à la construction du Beth Amigdash. Le Beth Amigdash a duré 410 ans. Le premier temple a duré 410 ans, donc ça veut dire que, d'après le calendrier hébraïque, le Beth Amigdash donc, a été inauguré en 2928, donc 480 années après la sortie d'Égypte, et a été détruit 410 ans après, c'est-à-dire en 3338 du calendrier hébraïque. Donc 3338, c'est comme ça qu'on trouve à moins 422. C'est d'après le calcul donc très traditionnel. Et un point assez remarquable, c'est que la construction du premier temple a duré 4 ans. Donc il a duré 4 ans et il a duré 410 ans. C'est-à-dire que le temps depuis le début de la construction du temple jusqu'à sa destruction, c'est 414 ans. Et 414, c'est le numérique du mot Kaddish. Alors quand on parle de Kaddish, on parle de la sanctification du nom de Dieu, et que la destruction du temple, c'était une sorte de profanation du nom de Dieu, et qu'on fait Kaddish, eh bien on a une espérance au temps messianique, la résurrection des morts, ce qui viendra avec. Tout ça, c'est intéressant dans la connexion que cela peut avoir des uns avec les autres. 414 par rapport au Kaddish. Maintenant, le temps de ce premier temple, c'était le temps de 17 jubilés. Il y a eu 18 Kohanim Gadolim. Alors, d'après une version, il y avait 18 grands prêtres qui se sont succédés. Et après la destruction du premier temple, il va y avoir un temps de 70 ans. jusqu'à la reconstruction du deuxième temple, après l'édit de Cyrus, qui était en 3390, et qui était donc 52 ans après la destruction du temple. Et il va voir après donc la reconstruction du deuxième temple, et sa destruction qui sera donc, si on compte l'ensemble, le deuxième temple va durer 420 ans. Il y a 70 ans entre le premier et le deuxième temple. Donc, si le premier temple a été détruit en 3338, ça veut dire que le deuxième temple, lui, a été détruit en l'an 3828 du calendrier hébraïque. Alors, c'est le calcul qu'on a. Alors, on dit que quand les Chaldéens sont rentrés, ont détruit, etc., ils avaient un certain orgueil de dire « on a détruit le temple de Jérusalem, on a tué le Kohen Gadol ». Et une voix qui a dit « mais non, vous avez tué un peuple qui était déjà tué, vous avez détruit un temple qui était déjà détruit spirituellement, il n'existait plus ». Quelque part. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre que dans notre compte, si on dit que c'est en l'an 3828 du calendrier hébraïque, ce qui correspond à l'an 68. Donc ça veut dire que quand on veut savoir quel est le millésime depuis le temps de la destruction du temple, eh bien on prend le millésime de l'année, on va dire l'année commune, l'année laïque, et vous lui enlevez la vie. La vie, c'est Chaïm, la valeur du mot Chaïm, c'est 68. Et c'est comme ça que pour cette année, on retrouve 1957. Alors ça, c'est le calcul le plus classique qu'on retrouve d'une façon générale. D'après le Rashbam dans Avodah Zarah, on retrouve le 70, l'an 70. Et d'après Rabbeinu Tam, Rabbeinu Hananel, et le Rambam d'ailleurs, ce sera l'an 69. Et pas 68 ou 70. Enfin, tout ça pour nous dire qu'il y a donc destruction du premier et du deuxième temple à la même date du calendrier, à 490 ans de différence. Quelle année exacte? Il y a une problématique. Alors, avec ce que je vous ai expliqué un peu avant, il y a une remarque qui est spécifique, je dirais, cette année, l'année prochaine. En effet, on a vu que la sortie d'Égypte, c'était en l'an 2448 du calendrier hébraïque, puisque Abraham est né en 1948, à 100 ans, il a Yitzhak, 400 ans plus tard, c'est la sortie d'Égypte. 2448. Ben, remarquez que depuis la destruction du premier temple, alors si la destruction du deuxième temple, c'est 1957 ans, depuis la destruction du premier temple, c'est 2447 ans. Et on est dans la 2048e année. 2448. Et ben, on retrouve donc le même temps entre, je dirais, Adam, le début, jusqu'à le don de la Torah à la sortie d'Égypte, 2448, du temps depuis la destruction du premier temple jusqu'à aujourd'hui. Alors il y a quelque chose à remarquer et que je voulais partager avec vous. Un autre point qui est assez remarquable, c'est qu'on dit il y a eu deux autres choses qui pourraient paraître presque insignifiantes par rapport à la destruction du temple. Enfin, la première, elle est quand même importante puisque on dit que c'est le jour où la forteresse de Bétar, qui était dirigée par Bar Korba, est tombée entre les mains des Romains. Et c'était considéré comme un jour de deuil terrible. C'était aussi le 9 Av. Alors évidemment, par rapport à la destruction du temple, c'est pas aucune commune mesure, mais quand même, c'était un espoir. Et je pense que ce qui est très important dans Nilkeda Ir Betar, que la forteresse de Betar est tombée, c'était l'espérance messianique qui a été désavouée. On sait que c'était l'époque de Rabbi Akiva et que Rabbi Akiva pensait que Bar Korba pouvait être le Mashiach. Et donc, alors c'était quelque part une sorte d'erreur sur l'estimation de quand le Mashiach doit venir, c'est important. Et donc c'est important surtout sur la déception d'imaginer qu'il pouvait avoir le Mashiach qui pouvait être, et certainement il pouvait, et que ça n'a pas abouti. La cinquième raison qui est évoquée dans la Mishnah, elle leur apparaît encore plus insignifiante, puisqu'on dit que c'est le jour où l'endroit du temple a été labouré. comme pour dire que c'est un champ commun et labouré, et avec en disant que cet endroit n'avait plus de source, plus de marque de présence juive. Ça a souvent été un peu la grande problématique de la volonté des peuples d'éradiquer, de déconnecter, de qu'il n'y ait plus de souvenirs. De souvenirs de la terre, et ça c'est quelque chose qui est fort, notamment dans le nom. Les Romains vont l'appeler la terre de Palestine, en référence avec les Philistins qui étaient sur la côte. Les Philistins n'étaient pas sur la terre d'Israël, et les Philistins qui étaient des ennemis jurés des enfants d'Israël, et appelés suivant le nom des Philistins tout l'ensemble de la terre d'Israël. C'était d'abord un contresens historique et une volonté de changer l'histoire. Et alors il y a cet aspect là, mais pire encore, c'est que la ville de Jérusalem va être rebaptisée par les Romains Aelia Capitolina. Alors Aelia, c'était la famille d'Adrien, l'empereur Adrien, Turnus Rufus Adrien, et Capitolina, c'est en rapport avec Jupiter, et donc c'était une appellation de païenne qui va déraciner jusqu'au nom. Nom de Jérusalem. Intéressant, parce que les musulmans, eux, vont garder un lien avec Jérusalem, plus ou moins, dans le sens où, pendant de très nombreuses années, Jérusalem s'appelait Bat Mikdash. Bat Mikdash, d'après le Bet Amikdash, donc la maison de sainteté. Et même aujourd'hui, Jérusalem s'appelle El Kotz. El Kotz, c'est-à-dire El Kodesh, la sainte. Donc il y a une dimension de sainteté. Bon, et enlever une dimension de Jérusalem. D'ailleurs, c'est très très intéressant, parce que Jérusalem, en hébreu, s'appelle Yerushalayim. Yerushalayim, vous entendez à la fin Yim. Et c'est sur les plus de 600 fois, 660 fois, que le nom de Jérusalem est mentionné dans la Bible. 600, plus de 660 fois, bien, sauf 5 fois, 5, 6 fois, ça va, bon, je vais prendre un détail, c'est toujours marqué Chasser, c'est-à-dire on lit Jérusalem, Yerushalayim, avec un Yim, à la fin, Yerushalayim, en hébreu moderne, on mettrait deux Yud, pour pas dire Yerushalim, pas Yerushalim, mais Yerushalayim, c'est un duel, hein, comme il y a Daïm, Raglaïm, Osnaïm, Einaïm, hein, tout ce qu'il y a en deux, comme ça, parce qu'il y a une Jérusalem d'en bas, une Jérusalem d'en haut. Mais normalement, on aurait mis même deux Yud, et dans le texte, le mot Jérusalem est écrit Chasser, et l'écrit défectif. C'est-à-dire, il y a marqué Yerushalem. Yerushalem, on lit Yerushalayim. Et pourquoi? Parce qu'on dit qu'il manque la présence divine. Vous savez, le Yud, c'est la première lettre du nom de Dieu, tel qu'on on l'écrit, Yud, Ke, Vav, Ke. Et c'est la dernière lettre du nom de Dieu, tel qu'on le prononce, Adon, Plon, Aï, finit par Aï, ça finit avec un Yud. Donc le Yud, c'est la présence du nom de Dieu, soit dans le début comme on l'écrit, soit la fin comme on le prononce. Et en fait, ce Yud qui doit être à Jérusalem, alors il y a un Yud au début, Yerushalayim, hein, au tout début, le mot de Jérusalem commence avec un Yud, mais à la fin, entre les deux dernières lettres, normalement, il devrait avoir un Yud, et il n'y a pas. Et c'est très intéressant, parce que dans la traduction de Jérusalem, dans toutes les langues en général, on parle de Jérusalem, Jérusalem, eh bien c'est prononcé sans le Yud. Alors qu'en hébreu, c'est Yerushalayim, de cette référence à cette lettre qui est la lettre la plus petite, qui est une leçon d'humilité, une leçon de sainteté, une leçon de présence de Dieu. Et c'est ça, Jérusalem, c'est la porte du ciel, la porte où toutes les prières montent, c'est Kimitzion Tetzetora de Varachem Yerushalayim, c'est le lieu de la révélation, c'est un lieu extraordinaire, qui a toujours une certaine Kedusha, mais il y a une sorte de Hester Panim, une sorte de voilement du visage d'Hachem quelque part, et qui fait que, eh bien, c'est la galoute, c'est l'exil, c'est ce que l'on pleure le jour du 9 Av, par rapport à Jérusalem, parce que on dit, si je t'oublie Jérusalem, que ma droite se dessèche, que ma langue se colle en palais, si je ne t'élève pas au sommet de mes joies. C'est la promesse que les enfants d'Israël avaient fait déjà au moment de la destruction du premier temple, de ne jamais oublier Yerushalayim, Jérusalem. Important le jour de Tisha B'Av, du 9 Av, est de se rendre compte pas seulement de mauvais comportements qu'on peut avoir, mais d'ingratitude et de ne pas reconnaître des fois ce que Hachem fait en bien et le rendre des fois en mal. Hachem fait sortir les enfants d'Israël d'Égypte pour les faire entrer en Israël pour leur bien. Cet amour de Dieu, ils vont le comprendre comme de la haine. Alors, une des explications très remarquables, c'est qu'ils vont dire, pourquoi on est sorti d'Égypte, une terre où il y avait le Nil qui irriguait les terres, c'était comme un paradis où on n'a pas besoin de pluie, alors que la terre d'Israël, c'est une terre qui dépend des pluies, et donc qui est sujette à risque de famine, parce que risque de sécheresse, alors que l'Égypte n'a pas ce problème-là. Et des fois, Hachem nous fait, souvent, toujours, Hachem nous fait du bien, qu'on peut pas forcément remarquer où est le bien, mais souvent, on n'a pas forcément la dextérité pour comprendre où se trouve le bien, et des fois, on ne reconnaît pas le bien qui nous fait. C'est quand Nabuzradan, c'était le général de Nabucodonosor qui a été envoyé pour détruire le temple. Quand il est arrivé, il a vu à côté de l'autel un sang bizarre, un sang qui bouillonnait un peu. Et il a dit, c'est quoi ce sang? Et alors ils ont dit, c'est ici, il y a des sacrifices, alors il y a du sang et des bêtes. Il a dit, moi je suis un boucher, je reconnais très bien les sangs de bouc, les sangs de vache ou d'agneau. Ce n'est pas du sang d'un animal de c'est autre chose. Et il les a cuisinés jusqu'au moment où ils ont avoué quelque chose. Et qu'est-ce qu'ils ont avoué? Ils ont avoué que Et il s'était passé la chose suivante. On va remonter un peu haut. Il y a eu, après le décès du roi Salomon, un schisme entre le royaume du Nord et le royaume du Sud. Le royaume du Nord, qui s'appelait le royaume d'Israël, va être dirigé par des rois qui auront tendance à être un peu idolâtres. Hein, le premier, Jéroboam, va empêcher les enfants d'Israël qui étaient sur son territoire d'aller en pèlerinage à Jérusalem, et parce que c'était en territoire de Judée, et donc de l'autre royaume des descendants de David, de Roboam, qui était avec la tribu de Benjamin, deux tribus, et au nord il y avait 10 tribus. Et ce qui s'est passé, c'est que donc le royaume du Nord, bien, ils avaient un veau d'or à Bethel, au sud du royaume d'Israël, et un veau d'or au nord, et ils disaient, ben, vous allez aller en pèlerinage au veau d'or. Ils avaient même changé les dates, en faisant du 15 Marcheshvan un jour de fête. Et il se passait des choses. Alors, à un moment, il y a eu une connexion. Omri, qui était le père du roi Achav, donc qui était un roi d'Israël, Achav s'est marié avec Jézabel, une femme peu recommandable, mais qui va avoir la volonté de tuer tous les prophètes. On est à l'époque du prophète Élie, d'Élie au Navi, et elle va tuer beaucoup de prophètes. Heureusement, il y avait un certain Obadia qui était un converti et qui va protéger des prophètes, et c'est comme ça qu'ils vont être sauvés. Toujours est-il que ce qui va se passer, c'est qu'ils vont avoir une fille qui s'appelle Atalia, qui vont marier avec le roi de Judée, et va avoir une connexion entre le royaume d'Israël, le royaume du Nord. La fille du roi Achav va se marier avec le roi de Judée, et Yoram, c'était le roi de Judée, Ben Yehoshaphat. C'était le cinquième roi, cinquième génération des rois depuis Rehavam. Et ce qui va se passer, c'est que Atalia va être pas très très gentille. Elle va s'arranger pour tuer tous les descendants de David. Tous les descendants de David, pour prendre le pouvoir et avoir une régence. Elle va diriger pendant 7 ans. Et à ce moment-là, il va avoir un Kohen Gadol, un grand prêtre, qui s'appelle Yehoyada, qui va sauver le dernier. Il s'appelait Yoash. C'était le dernier descendant de David. Et il va le sauver. Il va même le cacher dans le Kodesh HaKodashim, dans le temple, dans le Saint des Saints, pendant plusieurs années. Et donc, Yoash, prince héritier de la couronne descendant de David, va être sauvé par donc Yehoyada et sa femme, le Kohen Gadol, dans le Kodesh HaKodashim. Ce qui va se passer, c'est que donc il va être caché pendant 7 ans, et après, bon, ben, il va sortir. Ils vont mettre de côté Atalia, et Yoash va être roi pendant 40 ans. Il avait 6 ans au début quand il était, grâce au Kohen Gadol, Yehoyada, il va être, au début ça se passe bien. Puis après, Yehoyada va décéder, et c'est Zecharia, son fils, le fils de Yehoyada, qui va remplacer son père, comme Kohen Gadol, comme grand prêtre et comme prophète. Et là, Yoash va être poussé par des gens pas très bien intentionnés en lui disant, mais tu te rends compte, tu es resté pendant 7 ans dans le Kodesh HaKodashim et tu es sorti indemne. En général, dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, le Kohen Gadol, le grand prêtre, rentre une seule fois dans l'année, il reste quelques minutes et il sort de suite, on le laisse pas parce que c'est trop dangereux. Et toi, t'es resté pendant 7 ans, c'est que tu dois être un dieu. Et puis alors, bon, on dit ça une première fois, il dit, mais non. Et puis, des gens mal intentionnés, en force de lui monter la tête, eh ben, il s'est pris pour ce qu'il ne devait pas se prendre, et puis, il a commencé à dériver, à ne pas bien se comporter. Évidemment, Zecharia, le fils de son bienfaiteur, le fils de celui qui l'a sauvé, lui dit, écoute, tu te comportes pas bien, tu as été sauvé par mon père dans le Kodesh HaKodashim, dans le Saint des Saints, parce qu'il fallait te sauver, mais tu es un humain et tu dois respecter Dieu, et tu dois arrête avec tu dois, écoute, moi je suis au-dessus de toi, je suis au-dessus de tous, et puis je veux pas t'écouter. Et comme ça, ils vont pas écouter Zacharie, Zacharia, Ben Yoyada. Et alors que Zacharia était en train de... c'était un jour de Kippour. Et puis il leur dit, écoutez, le peuple qui partait vraiment en vrille. Et là, ce jour-là, qui était le jour de Kippour, et qui était aussi un Shabbat, le roi dit, ben, qu'on tue le Kohen Gadol, qu'on tue le grand prêtre, qu'on tue le prophète. Et ils l'ont tué. Ce jour de Kippour, qui était Shabbat. Celui qui était prophète, celui qui était Kohen. C'est ce qui est marqué dans les Lamentations de Jérémie. Ils ont tué le prophète et le Kohen. C'était le risque que voulait éviter Aaron. Vous savez, quand on lui demande de faire le veau d'or, il a vu que son neveu a voulu s'opposer, Hur, il a voulu s'opposer au veau d'or, Vayar, et marqué, et il a vu que, qu'ils l'ont tué. Alors il s'est dit, s'il s'oppose à eux pour le veau d'or, ils vont aussi le tuer. S'il tue Aaron, qui est à la fois le grand prêtre, qui est à la fois le prophète et grand prêtre, c'est trop. Et c'est pour ça qu'il avait accepté donc d'essayer de gagner du temps en faisant le veau d'or. Mais là, avec Zacharia, Ben Yoyada, l'histoire s'est passée différemment. Il a été tué. Et c'est ce sang qui, de cet homme, dont le père avait sauvé le roi, et le roi, au lieu d'avoir un minimum d'akaratatov, un minimum de reconnaissance du bien pour cet homme dont le père lui avait sauvé la vie, l'avait porté à bout de bras, l'avait sauvé dans le Kodesh HaKodeshim, dans le Saint des Saints. Et là, qu'est-ce qu'il fait? Il le condamne à mort. Alors c'est ça, la gravité. La gravité, alors là, c'est le paroxysme au maximum, mais c'est un peu la gravité du mauvais comportement que des fois on peut avoir vis-à-vis de Dieu, qui nous fait des biens, qui nous fait des cadeaux, qui nous prodigue des choses. Et qu'est-ce que on fait en retour à Dieu? Alors des fois on rencontre des difficultés, bien évidemment, et alors là il faut avoir une confiance, mais combien de fois on a des choses qui sont positives et on n'agit pas forcément à la hauteur de la reconnaissance qu'on doit avoir. C'est, on est, je suis pas trop débordé parce que on est le 9 av et le jour du 9 av on doit rester concentré sur le deuil. On n'a même pas le droit d'étudier la Torah parce que les Pikudei Hashem et Sharim et Samri Lev, les lois de Dieu sont droites, elles réjouissent le cœur, et donc d'une façon générale on ne peut étudier que des choses qui sont tristes. Voilà pourquoi je vous raconte des histoires sur la destruction, sur tout, sur le thème de Tisha B'Av, parce que c'est un jour où on doit rester concentré sur le deuil, et même l'étude de la Torah ne peut se faire que dans le cadre des choses qui sont tristes. Alors certes, il y a des grands maîtres qui ont donné notre perception, mais on va développer ça plus tard. Toujours est-il que il y a cette notion de reconnaissance qu'on doit avoir et qui est des fois manquante, et que on doit surtout ne pas être kafouy tova, c'est-à-dire être ingrat pour tous les bienfaits qu'Hachem nous fait. Ce jour du 9 Av, jour donc de commémoration de la destruction du premier et du deuxième temple et de nombreuses catastrophes qui sont arrivées, hein, des croisades, la proclamation des croisades, la première guerre mondiale, enfin, c'est une date, l'expulsion des juifs de France, d'Angleterre, à chaque fois c'est soit le 9, soit le 10 Av, hein, c'est une date très, très particulière. Alors au niveau historique, on pourrait faire tout un développement et je reprendrai presque les propos d'Herbert Pagani, rien qu'à vous dire tous les pogroms, etc., on aurait trois jours, hein, rien qu'à les énumérer. Alors, pas ce qui s'est passé seulement sur le 9 Av, ça serait sur d'autres dates, mais enfin, malheureusement, l'histoire, elle est triste. Toujours est-il que c'est un jour où c'est pas seulement un jour de jeûne, c'est-à-dire interdiction de manger, de boire pour quand la santé le permet. Hein, si une personne est malade, elle est dispensée du jeûne, évidemment. Enfin, évidemment, c'est peut-être pas si évident que ça. Mais en tout cas, une maladie qui justifie qu'il ne peut pas jeûner. Quelqu'un qui a juste un petit rhume ou un petit mal de tête, non, ça justifie pas de ne pas jeûner. Alors bon, il faut analyser. Mais en tout cas, une personne qui n'a pas la santé pour pouvoir jeûner, ou même par un âge canonique, on va dire, eh bien, donc, ne jeûne pas. Mais à part le jeûne, on a d'autres interdits. Il y a cinq, ce qu'on a comme le jour de Kippour, cinq inouïm, cinq mortifications. Donc, manger et boire ne forment qu'un. On a l'interdiction de se laver. Quand on dit se laver, c'est pas seulement par l'interdiction de prendre une douche. C'est même si on doit se laver les mains, on se lave que juste les doigts. Si on a besoin, bon, si on a quelque chose de sale, alors on peut laver ce qui est sale. Mais d'une façon générale, on se lave que les doigts et rien d'autre. Quoi. Ça, c'est l'interdiction de se laver. Donc, à la différence de ce qu'on avait dans la semaine qui précède Tisha B'Av. Alors là, cette année, il n'y avait pas eu la semaine qui précède Tisha B'Av. Mais quand on a Shavua Shechalbo, alors c'est prendre une douche qu'on n'a pas le droit. On a le droit de se laver les mains. Mais là, non. C'est minimum, sauf si c'est pour des raisons qui ne sont pas des raisons de confort. Par exemple, un Kohen qui doit faire la birkat Kohanim, parce qu'on fait la birkat Kohanim même à... Alors il y en a qui font pas le matin la birkat Kohanim, mais ils font que selon Amidra, et surtout chez les Sfaradim, pas chez les Ashkenazim, et ben le Kohen qui va faire birkat Kohanim se lave les mains normalement, enfin jusqu'au poignet, et pas seulement les doigts. Une personne malade qui doit manger du pain, il fait Nitilat Yadayim jusqu'au poignet, et pas seulement les doigts. Donc, interdiction de se laver, interdiction de sirha, c'est-à-dire de soindre de lotion, de crème, d'huile, pour avoir un certain confort, un certain bien-être. Donc ça, c'est interdit. L'interdiction de mettre des chaussures en cuir. Alors, chaussures en cuir, c'est pas seulement la semelle. Hein, c'est même si le cuir se trouve au-dessus, enfin, faut pas qu'il y ait de cuir. Bon, aujourd'hui, beaucoup de personnes mettent des chaussures qui, tout le temps, qui n'ont pas de cuir. Alors, on pourrait dire ce qui est bon, c'est de mettre des chaussures où on ressent le sol, les aspérités du sol. Ça sera un petit peu ça. Donc, pour marquer, donc, pas de chaussures en cuir. C'est que les chaussures en cuir qui sont interdites. Mettre une ceinture en cuir est autorisé, bien évidemment, ou d'autres choses. Donc, c'est seulement les chaussures. Et quand je dis chaussures, c'est les chaussures. Et une question qui se pose pour les semelles, par exemple, les semelles orthopédiques. Si la semelle sans linge se remet comme ça, elle est pas solidaire de la chaussure, même si elle est en cuir, eh bien on peut la mettre à Tisha B'Av parce que elle n'est pas considérée comme faisant partie de la chaussure, mais comme un vêtement. Et si c'est un vêtement, on a le droit. En plus, ça, c'est orthopédique, donc la question est moins forte. Si elle est collée dans la chaussure, alors là, c'est plus embêtant parce qu'elle fait partie de la chaussure et comme on peut pas mettre des chaussures en cuir, donc ça pose un problème. Alors, pas de cuir sur toute la chaussure, pas de relation conjugale, les hommes et les femmes sont séparés pendant tout le jour de Tisha B'Av. Et on n'a pas le droit, donc c'est voilà les cinq interdits, pas manger et pas boire, pas se laver, pas d'onguents ou de lotion, pas de relation conjugale et pas de chaussures en cuir. Voilà les cinq. Mais à part ça, il y a une interdiction qui est assez curieuse, qui est unique au jour de Tisha B'Av, parce que c'est un jour de deuil, on n'a pas le droit de se réjouir, qui est en commun avec une personne qui est en deuil par rapport à un être cher, donc qui est dans les 7 jours. C'est seulement les 7 jours entre depuis l'enterrement et ce qu'on appelle les Shiva, c'est interdiction d'étudier la Torah. Alors cette interdiction, c'est parce que les lois de Dieu sont droites, elles réjouissent le cœur et on peut pas se réjouir. Voilà pourquoi, eh ben une personne donc qui est en deuil donc dans les 7 jours ou le jour de Tisha B'Av, on ne peut pas étudier sauf des choses qui sont tristes, comme les textes qui font référence à la destruction du temple, du premier comme du deuxième temple, que ce soit les lamentations de Jérémie ou les textes dans le livre de Jérémie qui sont tristes, ou les passages dans les traités Gittin du Talmud qui parlent de la destruction du deuxième temple et des histoires comme ça, Bar comme ça, qu'on raconte chaque année à l'antenne, et puis voilà, et ou les lois de deuil. Enfin, on va dire des sujets tristes, c'est ça ce qu'on a le droit d'étudier. Alors, il y a une théorie du Rabbi Yitzhak Taïeb dans Yerech HaShulchan. Rabbi Yitzhak Taïeb, c'est 1786-1820, c'est pas Rabbi Yitzhak Taïeb Lomet, non, c'est son oncle. Et dans Yerech HaShulchan, il ramène le Maté Yehuda de Rabbi Yehuda Ayash, qui lui était à Alger, né en 1759, qui était le père de Rabbi Yaakov Moshe Ayash, qui était Rishon Lezion de 1806 à 1817. Bon, ça c'est pour la petite histoire. En tout cas, il va dire que on n'a pas d'obligation d'étudier la Torah. Mais comment on peut pas avoir d'obligation? Il est marqué avec Gita Boyomalaïla, il y a une obligation de la Torah, d'étudier la Torah tous les jours. Alors, il y a une théorie qui va dire que dans la mesure où on fait le schéma le matin et le soir, eh bien, on est déjà quitte sur le minimum syndical, on pourrait dire, de l'étude de la Torah. Et donc, voilà ce qu'on pourrait dire. Alors, on pourrait encore approfondir. On va approfondir sur la suite, puisqu'on a encore un petit rendez-vous dans quelques minutes. Pour l'heure, je vous laisse avec un petit peu de musique vocale, bien évidemment, et on se retrouve après.
Give us Bonjour, c'est Paul Amar. Je serai heureux de vous retrouver dès le 1er septembre prochain sur Radio J pour une interview politique quotidienne à 7h45.
Ça, c'est uniquement sur Radio J.
Radio J.
Papa, chérie, écoute-moi, je veux juste te parler. Et viens vite avec moi, on va se balader.
Radio J. Sur Radio J.
Radio J.